Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les auditeurs, vous vous êtes déjà demandé qui paye pour le travail, le temps de veille, le matériel, tout ça pour nécessaire pour produire l'émission? Eh bien c'est vous, oui, vous les auditeurs, ou en tout cas ceux qui choisissent de le faire généreusement en allant sur patreon.com/rdvtech. Et aujourd'hui, je vais en remercier quelques-uns en début d'émission, comme toutes les émissions, à savoir Alban Soto, Laurent Assouad, Hugo Talandier, Thibaut Bouvet, Sébastien et Médénor. Merci à eux qui font que cette émission peut exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est très simple, si vous aimez un petit peu la tech, si vous pensez qu'il est important d'être au courant de ce qui se passe dans ce monde merveilleux, eh bien vous pouvez tout simplement, au lieu d'aller écumer tous les blogs, tous les articles, les centaines de news qui sortent chaque jour, écouter le Rendez-vous Tech, une fois toutes les deux semaines, et en une heure et demie, on vous résume tout ce qu'il y a d'important à retenir. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui, pour cet épisode estival, je reçois à nouveau Jérôme Kainborg, que je remercie d'avoir officié sur l'épisode précédent avec ses jeunes amis youtubeurs, qui a porté un vent de fraîcheur sur le Rendez-vous Tech.
Eh ben écoute, merci à toi. Ben écoute, ça va bien. C'est presque les vacances. On a mis un palmier en fond d'écran. Hein. C'est les vacances
ouais,
de geek.
T'entends les
quoi.
Cigales là
mais j'ai mis des simulations en fait, de bruit de vagues et puis une lampe solaire bien sûr devant mon écran.
Donc t'es à la plage, c'est ça.
C'est les vacances.
Moi je suis
de
dans
geek,
la forêt plutôt, tu vois.
C'est, ah oui, oui.
Je fais l'émission dans l'herbe.
Voilà, tu es un petit troll de la forêt.
écoutez, effectivement, comme vous l'aurez compris, c'est l'été. Il n'y a pas énormément de grosses news. On pourrait faire des gros dossiers un petit peu artificiellement, mais je pense qu'on va plutôt se reporter sur un format de news et rumeurs un petit peu plus nombreuses, mais un petit peu plus rapides que les gros sujets qu'on fait habituellement, parce que il y a des trucs intéressants, mais à mon sens, c'est l'idée selon laquelle la tech est un petit peu plus calme pendant l'été, là, est vraiment confirmée, quoi. On est au cœur de l'été, juillet-août, on sent que même à la Silicon Valley, ils sont un petit peu en vacances.
Il y a quelques outsiders qui en profitent pour faire des annonces, mais effectivement, c'est plus calme. Ouais.
Donc on va vous parler de quoi ? On va vous parler de matériel avec des news sur les nouveaux téléphones Samsung et Apple. On a du matériel chez Facebook qui va faire des casques de réalité virtuelle directement. Il y a d'ailleurs, d'autres choses qu'ils vont fabriquer aussi. On va parler un petit peu du Tesla Model 3, du fait que Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde, mais non, pas vraiment. Bill Gates est repassé devant. VPN qui disparaissent en Chine et en Russie. On a plein de choses comme ça dont on va vous parler. Mais on va donc commencer avec de la tech pur jus, avec les rumeurs sur les nouveaux téléphones, encore une fois Apple bien sûr, qui commence à se confirmer, et Samsung, et un petit peu rapidement. Alors, Samsung, le Galaxy Note 8, qui devrait être annoncé, on va dire fin août, si je ne m'abuse, devrait avoir un écran 6,3 pouces en Super AMOLED, donc vraiment super qualité. Snapdragon 835, c'est le cas du Galaxy S8. Une certification IP68 donc étanche caméra 12 mégapixels, double caméra 12 mégapixels, ou plutôt double appareil photo 12 mégapixels avec stabilisation optique à l'arrière et une batterie de 3300 mAh. J'imagine que toi, ce qui attire ton attention, c'est surtout les caméras. Il faut dire que le reste, c'est à peu près similaire au Galaxy S8, donc un petit peu le top de ce qui se fait aujourd'hui, mais deux caméras avec stabilisation optique de 12 mégapixels à l'arrière, ouais, ça t'intéresse?
Ça m'intéresse. Après, bon, il parle d'un zoom optique x3, ça m'a l'air un peu capillotracté. Ils vont encore nous sortir un truc en zoom hybride, machin. En tout cas, les photos qu'ils donnent, qu'on voit, qui sont celles du constructeur quand même, enfin, ce qu'on voit, j'attends de voir, j'attends de tester. Ils partent du même, on va dire, des mêmes combos optiques qu'ils ont depuis le S7, hein, même, qui sont une très très bonne base optique.
Après, mais il y avait déjà deux caméras sur les.
Non, il n'y avait pas deux caméras. Il n'y avait pas deux caméras. Le truc de deux caméras.
Là, c'est encore que des rumeurs, hein. Mais
deux caméras, pour avoir testé pas mal de smartphones avec deux caméras cette année, tu peux faire tout ou rien avec deux caméras. Tu peux mettre deux caméras et ça a ou très peu d'intérêt, comme certains smartphones que j'ai testés récemment, ou alors tu peux faire des choses comme Apple l'a fait, comme Xiaomi l'a un peu fait, où tu vas varier ce qu'on appelle la longueur focale, et puis travailler sur la différence entre les deux caméras pour faire du mapping 3D, des choses comme ça. En gros, deux caméras, c'est un argument marketing visuel avant tout, mais après, il y a finalement peu de compagnies qui en font vraiment quelque chose d'intéressant derrière.
C'est un peu comme toutes les, je me rends compte, comme toutes les caméras, enfin les appareils photo, les capteurs en fait. C'est vraiment que la moitié de l'équation sur les téléphones mobiles.
C'est l'autre même
moitié,
le tiers.
Ah oui, d'accord, à ce moment-là.
En fait, pour juger de la qualité photo d'un smartphone, tu as les qualités du capteur, tu as les qualités optiques, et ensuite, et c'est souvent le truc qu'on oublie, le traitement électronique de l'image.
C'est à ça que je pensais, ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'avais même pas fait la différenciation entre le capteur et l'optique. C'est vrai que les deux sont importants, ouais.
Donc, ouais, oui, parce que tu peux avoir un bon capteur, mais une optique qui va pas suivre derrière, et ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y avait eu en entrefilet là ce faux bad buzz d'un ancien ingénieur de chez Google qui disait que les iPhones avaient des meilleures caméras que tout ce qui pouvait exister sur Android. Là où il avait pas complètement tort, sans réveiller la polémique, c'est que le problème d'Android, c'est l'unification du traitement électronique de l'image. C'est-à-dire que Samsung va traiter l'image à sa sauce, Sony va la traiter à une autre, ce qui fait qu'il n'y a pas un tronc commun comme il peut y avoir sur iOS et une constance en tout cas dans le traitement électronique de l'image. Donc tu vas te fier à un capteur qui est le même de l'un à l'autre, ou même, mais tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats photo derrière. Donc ça peut poser effectivement un problème pour l'évolution de la photo dans le monde Android, en fait.
Bon, bah justement, on évoque forcément, quand on parle de qualité de smartphone et de photos, on évoque forcément l'iPhone. Et les dernières rumeurs sur l'iPhone 8 ou iPhone Edition, ou on ne sait pas comment il s'appellera, semblent confirmées, notamment grâce à une fuite du système d'exploitation du HomePod. Donc le HomePod, vous savez, c'est cette enceinte intelligente qui devrait être disponible avant la fin de l'année de chez Apple. Enfin, enceinte intelligente, oui, si, enceinte intelligente. Et donc le système d'exploitation est basé sur iOS, comme on s'en doute, et il y a des référence à ce fameux iPhone 8. Alors, est-ce que c'est une fuite contrôlée ou pas? Dieu seul sait. Mais le fait est qu'il semblerait que finalement, il n'y ait plus du tout de Touch ID sur cet iPhone 8 et qu'il y ait, pour remplacer ça, le fameux Face ID ou le Grimlock qu'on évoquait ensemble il y a quelques temps. le Grimlock, et que la reconnaissance faciale, donc qui remplacerait tout ça, soit beaucoup plus fiable que dans les systèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui pouvaient être comment dire, trompé par une simple photo. Là, il y aurait une vraie perception de profondeur, etc. Et qui pourrait même fonctionner quand le téléphone est posé à plat. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une sorte de large focale pour capter votre visage, même quand vous n'êtes pas directement devant.
Ouais, si. Mais bon, mapping,
voilà, ça remplacerait ça remplacerait a priori le Touch ID, qui disparaîtrait complètement de cette édition spéciale et qui, à mon sens, reviendrait peut-être dans le prochain où il y aurait les deux. Mais
Je sais pas si Apple ferait un Si Apple le présente comme un pas en arrière, tu vois, le s'ils
ils peuvent
en
dire,
gros s'ils oui. abandonnent le Touch ID,
ils vont pas
c'est
le
parce qu'ils
ensuite.
Vont dire on a mieux que le Touch ID, donc ils vont pas
moi,
le remettre derrière.
Je me demande s'ils peuvent pas se sortir du truc en disant c'est un prototype pour vous montrer ce que, enfin pas un prototype mais genre c'est une édition spéciale un peu machin où on vous montre un petit peu le mieux de ce qu'on peut faire dans tel domaine mais le prochain ça sera le vrai iPhone 8 et là à ce moment il y aura la convergence des technologies.
Moi je crois pas à l'abandon total du Touch ID. Je pense qu'il sera
rumeurs commencent à être concordantes là. Hein.
Oui, mais moi je comme tu disais tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a un côté fuite contre parce que je me mets là, je suis mort de rire parce que j'imagine les ingénieurs de chez Samsung avec ce genre de fuite, eux qui sont en train de bosser à fond sur un Touch ID sous l'écran. Ça, non, mais merde, non, Apple, faites-le quoi. Non, attendez, non, enfin voilà. Moi, je fais mon pronostic. Hein. Mon pronostic, c'est Touch ID sur le bouton sur le côté, avec justification que le Touch ID restera sur le côté, mais comme moyen secondaire d'activation et d'identification par rapport à une reconnaissance faciale qui passe en primaire. Et c'est comme ça qu'Apple va nous vendre le fait qu'ils sont pas arrivés à mettre l'empreinte digitale sous l'écran.
En tout cas, toutes les rumeurs aujourd'hui font état du fait qu'il disparaîtrait complètement. Celle du truc sur le côté, sur le bouton latéral a été évoquée. Et les fuites ou les sources semblent indiquer que là, c'est complètement abandonné. Mais on verra, peut-être que tu auras finalement raison.
Je pense qu'il y a une part de contrôle quand même d'Apple sur tout ce qui fuite là. Oui. Là, attends, ils se font une campagne de pub. Le nombre de YouTubeurs qui ont fait déjà leurs vidéos sur l'iPhone 8, je suis sidéré, quoi. Sidéré.
On en parle beaucoup. Un autre truc qui fait beaucoup de bruit, c'est ARKit, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission, et qui, je crois, toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo ou un nouvel article ou un nouveau quelque chose qui chante les louanges de ARKit. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, ARKit, c'est le kit de développement de réalité virtuelle qui a déjà donné des résultats assez impressionnants dans la manière dont les développeurs ont intégré cette technologie à leurs applications de test. Hein, on est encore à l'état de démo. Et il y a une chose qui est particulièrement impressionnante, c'est la stabilité de l'image informatique surimposée sur l'image réelle. Généralement, quand on a une image de ce type, une composition de ce type, on a l'impression que l'image synthétique flotte un peu sur l'endroit où elle est censée être posée. Et l'un des éléments vraiment, l'une des grosses réussites de ces premiers tests d'ARKit, c'est la stabilité qui contribue à l'impression de réalité. Il y a d'ailleurs une des démos récentes qui est sortie, c'est quelqu'un qui a composité un robot qui marche dans la rue et autour duquel il tourne avec sa caméra. Et c'est vraiment bluffant de pas de réalisme, parce qu'on se rend bien compte que le robot en question est en image de synthèse. Il faut quand même regarder un petit peu près pour vraiment s'en rendre compte, mais on s'en rend compte. Mais surtout, c'est une chose qui aurait pris une technologie, un temps de travail énorme à faire sans cette technologie. Donc, on peut imaginer que pour des films petit budget, etc., on peut poser une image de synthèse dans la scène. Et puis on joue autour, on joue avec, ça et le résultat est visible immédiatement. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et puis on a eu un article de Matt Miesniek sur Medium qui détaille en fait, qui met un petit peu au propre sur papier toutes les raisons pour lesquelles ARKit a autant de succès avec les développeurs par rapport aux autres solutions qui ont déjà été proposées. Et il parle beaucoup de composants logiciels et de stabilité, d'uniformité, etc. Ce qu'il en reste au final, c'est que ça reste des trucs sur des téléphones. Il faudrait voir comment ça. Si Apple sort un matériel correspondant, et on a eu des rumeurs sur deux prototypes qui sont en train d'être développés, soit un truc à la Google Cardboard où on met le téléphone dans une base d'une sorte de lunette et le téléphone va faire office de machine et d'écran, ou alors un casque indépendant qui aurait déjà l'écran, le matériel intégré. Mais bon, ils sont en train de travailler dessus. Bref, au-delà de ça, ARKit, effectivement, vraiment des premiers pas impressionnants, quoi.
Bah, c'est d'autant plus intéressant que même au-delà de l'AR, je trouve, je vous conseille vraiment d'aller lire le deuxième article dont tu parles. Il est un petit peu tendu du slip, il est un petit peu technique, mais ça fait comprendre d'abord...
Ça s'appelle « Why is ARKit better than the alternatives ?» Donc, pourquoi est-ce que ARKit est meilleur que les autres solutions de réalité ?
Que les autres solutions ? Bon, en gros, il explique que c'est aussi l'uniformité hein, de Apple software, hardware, qui permet justement d'avoir développé un ARKit qui a l'air quand même... beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable que les autres qui ont affaire à une multiplicité de hardware. On retombe toujours finalement sur le même problème. Mais
il y a aussi une question de rafraîchissement, rafraîchissement de l'écran et des capteurs, de la manière dont les capteurs eux-mêmes travaillent avec les autres capteurs. Enfin, je veux dire, les capteurs photo travaillent avec les autres capteurs qui sont hyper précis et qui se mettent à jour beaucoup plus souvent. Donc on a genre 1000 Hertz au lieu de 30, enfin ce genre de truc. Bref.
Mais en fait ce que j'adore ce type d'article parce que tu te rends compte quand même le boulot qu'il y a derrière ces technologies que probablement on va avoir en se disant oh c'est cool, enfin qu'on va critiquer nous le truc il est pas génial, et tu t'aperçois à quel point mais un truc auquel j'avais pas pensé mais pour construire un mapping 3D d'une image, c'est un peu pixel par pixel, il va analyser, mais qu'est-ce qui se passe quand un nuage passe devant le soleil? Tous tes pixels changent de couleur. Donc, ça veut dire pour le computer, là, enfin l'ordinateur, en gros, lui, il comprend que t'as bougé. Mais non, t'as pas bougé, il y a juste eu un nuage. Donc, comment faire comprendre que c'est juste un nuage? Enfin, il y a des trucs, tu te dis, waouh, putain, j'avais pas pensé à tout ça, quoi. Ouais, et c'est quand même des technologies de dingue et qui évoluent à une vitesse de dingue aussi. Et j'avoue que toutes ces vidéos de démos qu'on voit sur YouTube, il y a des trucs qui sont... Ce que j'aime bien dans ces démos de réalité augmentée par rapport à ce que j'ai vu chez HoloLens, Tango et tout ça, c'est qu'il y a des trucs hyper concrets et qu'on sent qu'on en aura l'utilité tout de suite, quoi. C'est tout con, hein, mais le truc de la règle pour mesurer tes meubles chez toi ou ce genre de truc, ça a l'air très précis et ça a l'air de vraiment bien marcher, quoi.
Ouais. Alors, je suis complètement d'accord. Il faut aussi dire que c'est le seul qui a vraiment une utilité hyper concrète tout de suite, quoi.
La direction dans la rue aussi.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Direction dans la rue. Et après, si, mais... Je pense que un petit peu comme mais ça on va peut-être en parler après, mais les nouvelles Google Glass. Moi, de toute façon, la réalité augmentée, je pense surtout au monde professionnel, pouvoir afficher de l'information sur les choses. Au niveau particulier, c'est vrai que les applications vont venir. On n'y a pas pensé à toutes, mais ça sera aussi, on jouera à Minecraft entre deux tasses de café.
Mais alors ça, c'est le genre de truc auquel je crois moyen, mais
oui,
mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est la première implémentation concrète, logicielle, qui est vraiment, vraiment convaincante. Mais il faut voir aussi que c'est ce que je dis depuis le début, le gros côté casse-gueule de ce genre de truc, c'est pas le logiciel, c'est le matériel. Alors là, ils réussissent vachement bien le logiciel, mais il faut voir comment c'est implémenté dans le matériel, et c'est ça le gros problème.
Oui, ça c'est sûr.
Et d'ailleurs, Microsoft est en train de designer visiblement une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour le HoloLens qui leur permettrait de faire tous les calculs d'intelligence artificielle, genre pour reconnaître le langage, les images, etc., sur l'appareil, sur le HoloLens lui-même, plutôt que de devoir le faire dans le cloud. Donc vraiment le rendre encore plus autonome et même peut-être pas vraiment avoir besoin d'une connexion Internet. Donc oui, tout le monde est en train de travailler dessus. Je sais plus si j'en avais parlé. Si, j'en avais parlé du fait que j'avais testé le HoloLens il y a quelques semaines et que ça m'avait quand même impressionné, surtout à quel point c'est opaque. Les images synthétiques sont opaques et s'intègrent pas mal dans l'environnement réel. Donc bon, ensuite l'utilité c'est une autre question et l'utilité se pose à mon sens aussi, enfin sur toutes les plateformes, y compris celles d'Apple et de Microsoft, etc. Mais Un autre truc intéressant dans ces domaines de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est les sources selon lesquelles, enfin les rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de développer un casque de réalité virtuelle autonome, donc sans fil, entièrement autonome, à $200. Donc $200, on va dire 200 euros, qui est à la fois enthousiasmant parce qu'on se dit waouh, un truc à 200 euros, c'est le truc qui pourrait démocratiser vraiment la réalité virtuelle, surtout si c'est un truc vraiment autonome, on n'a pas besoin de le relier à un ordinateur. Et puis en même temps, on se dit 200 euros, quel type de matériel est-ce que ça va être ? Parce qu'on sait bien que la réalité virtuelle a besoin d'un taux de rafraîchissement, d'une qualité d'écran qui sont quand même élevés pour pas vous donner la nausée. Et à 200 euros, alors on sait que les téléphones haut de gamme en pur matériel, généralement ils coûtent, allez on va dire 200-300 euros, donc on pourrait se dire qu'ils pourraient avoir un matériel équivalent à un téléphone moyen haut de gamme pour ce prix-là, s'ils réussissent à faire des prix intéressants. Mais bon, donc d'un côté, il y a cet enthousiasme de « ça pourrait démocratiser le truc », et de l'autre, il y a ce point d'interrogation sur la qualité, quoi.
Bah après, surtout, on peut aussi se dire où est le véritable argent, et c'est peut-être ça que vous faites. C'est-à-dire, en gros, il peut aussi faire une visière sur laquelle il fait très très peu de marge, voire pas de marge.
Parce que l'intérêt...
Pardon ?
Voir la vendre à perte, hein. On a connu ça dans le matériel.
Les constructeurs théoriquement, c'est interdit, mais
Les constructeurs de consoles, par exemple, de consoles de jeux, pendant de très nombreuses années, et encore aujourd'hui dans certains cas, vendent les consoles à perte pour se refaire ensuite sur le matériel, enfin sur les jeux, quoi.
Il y a quand même un enjeu pour Facebook qui est intéressant, c'est que Facebook voit très bien, et moi je suis d'accord avec eux, en tout cas, la réalité augmentée, on est à peu près sûr quand même qu'il y a un gros marché. La réalité virtuelle, il y a un gros marché au niveau des gamers, du divertissement et ce genre de choses.
Et oui et non, excuse-moi, je t'interromps, mais il y a un gros marché, c'est pas encore... on est encore dans cette période d'incertitude,
casques... C'est pour ça que je termine ma phrase. Il y a un gros marché, mais qui aujourd'hui est bridé par le prix d'une accessibilité correcte à cet univers. C'est-à-dire qu'on est d'accord que la réalité virtuelle à base de smartphone et de cardboard, l'expérience est moyenne. Sur des grosses visières à 800 euros, ça devient quand même pas mal du tout. Là, l'idée, c'est de sortir quelque chose avec une expérience suffisante à un prix à $200. Là, l'enjeu pour Facebook, c'est de devenir la norme, en fait, la norme du marché. Donc, moi, j'y crois assez. Hein. J'y crois assez.
J'avoue qu'il y a vraiment... Le truc, c'est que s'ils réussissent à sortir ça autour de 200, même, on va dire, 250 euros, là, tout à coup, je suis sûr qu'il y a plein, ne serait-ce que d'auditeurs, ça va pas être monsieur tout le monde, mais en tout cas, d'auditeurs de ce type d'émission, par exemple, hein, d'enthousiastes tech, qui se disent... Bon, 800 ou 600 euros avec un truc qu'il faut connecter à ma console ou mon PC, pas vraiment pour moi. Mais 200, autonome. Allez, je vais tester. Autonome en plus, oui, c'est
autonome,
ça.
Autonome, c'est ça, parce que l'autonomie, pour avoir testé pas mal de visières, c'est bien, mais on a quand même l'impression d'être lié. Enfin, t'as ton cordon ombilical, quoi, qui te ramène un petit peu à la réalité, quoi.
Et je peux imaginer un truc comme ça où ils te vendent le casque tout seul, et puis ensuite tu peux ajouter les contrôleurs, parce que dans ce genre de configuration, les contrôleurs sont hyper importants. En réalité virtuelle, c'est vraiment. On disait tout à l'heure, le capteur photo sur une caméra de smartphone, c'est que le tiers du truc. Moi, je dirais vraiment le casque dans la réalité virtuelle, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est la moitié du truc.
Il
faut absolument des manettes qui captent tes mouvements. Sinon, t'as pas.
Qu'ils vendront à 1200 euros.
Ouais. Bah, pas forcément, mais moi, je vois bien le truc à 200 euros, plus ensuite, si tu les veux, mais concrètement, il les faut, le truc à 150 pour les deux, quoi.
Oui.
Et ils te vendent le truc de base avec une petite télécommande qui fait pas grand chose. Mais bon. À voir. C'est sûr qu'il y a énormément d'opportunités et que si Facebook réussit à sortir ça en 2018. Il y a un autre truc qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même hyper intéressant, c'est que ça signifierait l'arrivée de Facebook sur le domaine du matériel. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant aussi. On a d'ailleurs une rumeur selon laquelle Facebook serait en train de préparer son propre, sa propre enceinte type Amazon Echo. Donc, c'est deux rumeurs sur Facebook dans le matériel. Et on peut se dire, mais que vient faire Facebook dans le matériel? Mais d'une part, on peut jamais sous-estimer Facebook sur rien. Je crois qu'on l'a bien compris depuis quelques années. Et puis ensuite, c'est une trajectoire qui est comparable à celle de Amazon, qui faisait pas de matériel pendant des années et puis qui maintenant a une place importante.
Ça serait tout à fait cohérent. Ça serait tout à fait logique et cohérent de la part de Facebook. Pas de se lancer sur tout et n'importe quoi, mais effectivement, ils ont une vraie carte à jouer. Et effectivement, au niveau d'une d'une intelligence artificielle domestique, Facebook, avec le data qu'ils ont, peut être quelque chose de très intéressant. Ouais.
Donc sur ces deux gros domaines d'expansion qui ont encore un gros point d'interrogation au-dessus de mais qui quand même sont les domaines qu'on est en train d'explorer, c'est-à-dire l'intelligence artificielle avec les enceintes connectées ou la présence d'intelligence artificielle partout et la réalité virtuelle, c'est en gros, on va dire, les plateformes des 5-10 prochaines années. Et le fait que Facebook fasse un gros pari dans ces deux domaines serait tout à fait cohérent. Et un matériel autonome de réalité virtuelle en 2018 autour des 200-250 euros pourrait vraiment être la grosse carte à jouer, parce que l'industrie est encore en développement et il n'y a pas vraiment de gagnant encore. Donc
ouais.
Bon, pardon, en parlant de Facebook, j'ai eu un petit... bon, donc, en parlant de Facebook, il y a un petit article que j'ai vu passer sur BuzzFeed qui m'a vraiment interloqué et qui, je pense, interloquera pas mal d'auditeurs quand j'aurai expliqué de quoi il s'agit, c'est le fait que les publicités sont... Alors, c'est un petit peu compliqué. Ça a à voir avec Facebook, la publicité sur Facebook, la presse et la publicité dans la presse. Alors, il y a une tendance qui est en train d'émerger depuis quelques mois, qui est que les annonceurs qui veulent promouvoir leurs produits, en fait, au lieu d'aller faire de la pub, enfin, en parallèle d'aller faire de la pub dans des articles de presse, eh ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des articles de presse positifs sur leurs produits et ils vont les promouvoir sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils payent Facebook pour mettre en avant des articles qui sont publiés sur Facebook, au lieu de payer les éditeurs de presse pour parler de leurs produits dans les articles qui sont écrits dans la presse. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une sorte d'évolution de du marché de la publicité. Alors c'est encore qu'une tendance, hein. On ne sait pas si ça va devenir une tendance majeure, mais c'est une évolution de la manière dont on envisage la publicité, qui est une autre conséquence de l'omniprésence de Facebook, qui encore une fois joue en la défaveur de la presse. Et c'est hyper pervers parce que les annonceurs et Facebook utilisent le contenu créé par les journalistes et les organes de presse et en quelque sorte les détournent puisque ils les promeuvent sur Facebook et que cet argent ne va jamais vers l'article de presse, alors même que c'est eux qui sont bien sûr en parallèle de Facebook mais responsables de la création du contenu. Donc, je dis pas que c'est bien ou pas bien parce que Facebook est aussi responsable du truc parce que c'est eux qui ont créé le réseau qui fait que l'information se diffuse. Mais il y a quand même une certaine perversion dans cet état de fait que les annonceurs vont payer Facebook pour promouvoir un contenu créé par quelqu'un d'autre, quoi.
On le dit depuis quelques années, hein. Le problème, c'est que là, on est en train d'arriver dans un monde extrêmement pervers. À force de vouloir chasser la pub quand elle ressemblait à de la pub, on a de plus en plus de pubs qui ne ressemblent pas à de la pub, qui, moi, à mon avis, est beaucoup plus perverse. et qui créait en plus des déséquilibres économiques énormes. Parce que comme tu dis, la presse, c'est double châtiment là. C'est-à-dire que l'argent risque de rester en cercle fermé entre Facebook et des annonceurs, avec plus aucune rémunération pour créateur du contenu journaliste, mais déjà c'était pervers le système que des annonceurs payent des journalistes pour créer du contenu positif, parce que là tu dis ils sont pas payés. Le système, à mon avis, là où il devient extrêmement pervers et où on est, moi qui suis dans le test tech, ça m'inquiète énormément, c'est qu'aujourd'hui la pratique consiste à payer quelqu'un, qu'il soit journaliste, blogueur, youtubeur, à produire un test, sans forcément lui dire d'être positif. Mais le fait même que tu le payes, bon, on va pas revenir sur ce débat.
Oui, voilà, on a déjà fait le débat plusieurs fois.
Ouais, on a déjà fait le débat plusieurs fois, mais bon, je pense que ça a déjà un effet pervers. Que c'est pas clairement indiqué, surtout quand c'est pas clairement indiqué, mais bah, c'est un autre débat. Et derrière, de promouvoir ce contenu, comme ça, ça ressemble pas à de la pub. Mais c'est vraiment de la pub quand tu du coup,
bon, elle disons est, que le contenu
elle
en
est
question...
10 fois plus efficace. Moi, je viens de la pub. Je peux te dire que ce type de publicité est 10 à 100 fois plus efficace qu'une pub en termes marketing. Parce que tu ne vois pas que c'est une pub, justement.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais là, vraiment, la tendance qui, encore une fois, c'est une tendance, c'est pas non plus une lame de fond, donc c'est pas le moment de s'affoler complètement, mais il faut en être conscient. Là, ce qui est vraiment nouveau, c'est le fait que l'argent de la pub, c'est-à-dire même ceux qui font de la pub, ils vont mettre en avant du contenu qui est pas forcément du contenu qu'ils ont commandé eux-mêmes. Hein. Ça peut être simplement un test positif qu'a fait un journaliste en toute sincérité, en toute neutralité, en toute autonomie. Ils vont le payer. Et ce qui est encore plus intéressant, entre guillemets, c'est que souvent, les publications elles-mêmes, les organes de presse eux-mêmes, vont faire de la pub aussi sur Facebook pour promouvoir leur contenu. Donc
ça crée
double
du trafic
peine pour,
quand même. Il n'y a pas une perte sèche. Tu crées du trafic quand même vers ton titre de presse. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, créer du trafic vers son titre de presse, c'est bien beau, mais si t'as beaucoup de trafic, mais ça te rapporte rien,
parce qu'il y a pas de pub et qu'il y a des adblockers.
Parce qu'il y a pas de pub et tout le monde a mis un adblocker, ça sert pas à grand chose non plus. Donc
ouais, moi je vous le dis, l'avenir de tout ça, c'est on dit le crowdfunding souvent, et c'est vrai que c'est du crowdfunding. Bon, petite pub pour Patreon, qui d'ailleurs va encore très bien. Il y a eu un article dans The Verge qui est visiblement les choses.
On en a parlé de cet article, il était très intéressant. Dans TechScope, on en a parlé. Très très bon article sur Patreon, effectivement. Ouais.
Mais oui, mais donc, si on se met à payer pour le contenu qu'on consomme, tout à coup, tous ces problèmes disparaissent.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, Patrick, mais que partiellement. C'est-à-dire que tout ne pourra pas fonctionner avec du crowdfunding. Et le problème, moi, je le dis parce que ça m'inquiète vraiment sincèrement. À chasser un diable, on a créé un démon. C'est-à-dire qu'on s'est acharné sur la publicité. Et je parle au public hein, qui nous écoute. La pub c'est mal, la pub c'est pas bien, c'est intrusif, c'est machin. Et effectivement, il fallait mettre des garde-fous. Mais ça, on le dit depuis longtemps. Attention à chasser un problème en risquant d'en créer un plus gros. Et le plus gros, moi, je le vois, je l'ai vu arriver comme un camion, parce que j'ai même travaillé dessus en tant que... Ben non, mais dans une boîte de marketing sur la création de contenu marketing. Et j'ai beau faire partie, et j'ai fait partie du monde de la publicité, je suis le premier à dire que ce type de publicité doit être illégal, parce qu'on est dans la manipulation vraiment de masse. Pour moi, la publicité n'est pas de la manipulation de masse, mais la publicité cachée, c'est de la manipulation de masse. Et je serai toujours vent debout contre la publicité cachée.
Ouais, mais sur ça, il y a des lois. Hein. Normalement, c'est interdit. Ouais. C'est pas la peine de, tu vois. Il faudrait plus le signaler. Mais c'est vraiment un changement de société, et là on part dans des considérations presque philosophiques, mais j'ai lu un article ce matin sur le fait que les grands activistes politiques américains aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, enfin de droite c'est déjà le cas, mais les gens de gauche commencent à s'y mettre aussi, sont en train de faire de concentrer leur financement et leurs donations politiques un petit peu moins sur les PAC et les super PAC qui sont des groupes d'activistes aux États-Unis. Encore une fois, c'est à droite et à gauche, un petit peu moins sur ça et un petit peu plus sur des usines à memes. Tu sais, c'est des trucs. Il y avait un exemple d'une image de la Maison Blanche avec un toit de chapiteau, tu sais, avec l'image « Voilà ce que pense le reste du monde de notre pays aujourd'hui ». Et ça, évidemment, c'est un mime de plutôt de gauche. On en a beaucoup vu supporter Trump. Mais donc, il y a vraiment un changement de paradigme qui est hyper profond. Et bon, ensuite, c'est impossible de prédire le futur, mais il y a aussi beaucoup d'articles que j'ai vus ces derniers temps sur les problèmes que pose la l'électronisation de la réalité pour les adolescents aujourd'hui. On a beaucoup d'adolescents qui ont grandi avec les téléphones portables et c'était très intéressant socialement cette idée que au niveau physique, les enfants et les adolescents sont plus en sécurité que jamais. On a moins de crimes, on a moins de drogues, on a moins de... Enfin, ils sont vraiment beaucoup plus en sécurité que dans toute l'histoire de l'humanité. Par contre, au niveau émotionnel et psychologique, c'est une vie qui est un petit peu plus difficile parce que il y a ce nouvel espace informatique virtuel qui est bon, qui pose ses propres problèmes. Donc, est-ce que c'est mieux ou moins bien?
Le sentiment, on n'a jamais eu autant un sentiment d'insécurité alors qu'on n'a jamais été aussi.
Non, mais ça c'est autre chose. Moi, je te parle du bien-être des adolescents. Tu sais, ce fameux les enfants sont ceci, les enfants sont cela. Il faut protéger les enfants. Oui, bien sûr. Et souvent, c'est un cri d'alarme un petit peu alarmiste justement. Mais on a des études qui commencent à être faites de manière un petit peu sérieuse, qui montrent que on a beaucoup gagné en sécurité physique, mais cette instabilité psychologique peut-être se manifeste de manière un petit peu plus grande parce que ils sont toujours en contact tous ensemble, il y a une pression qui s'opère par les réseaux sociaux, il y a etc. Donc bon, moi je pense pas qu'il faille s'affoler, mais c'est vrai que c'est une question ou un sujet intéressant à étudier et j'espère que nous dans notre génération, comme on s'intéresse à ces choses-là, on saura les appréhender. Ouais. Mais bon, je dis ça aussi parce que j'ai vu, excuse-moi, je te donne la parole dans une seconde. J'ai vu il y a cette semaine une série qui s'appelle 13 Reasons Why sur Netflix et bon, pour ceux qui l'ont vu, vous verrez que effectivement, enfin vous comprendrez que c'est une préoccupation quoi, ce type de problème. Bref.
D'autant plus quand tu commences à connecter les fils de ce qui risque d'arriver, on va dire dans les 5, 10, 20 ans à venir, il y a cette chose effectivement comme tu dis le rapport des adolescents avec l'informatique, mais même des adultes, hein, on est beaucoup à perdre au pied. Et ça va venir directement à un moment où on est en train d'avoir des réalités alternatives, que ça soit au niveau des informations, que ça soit au niveau de ce qu'on aura dans nos lunettes de réalité augmentée, que ça soit dans nos jeux vidéo qui vont mélanger et en fait, je sais pas ce que ça va donner. À la fois, cette perte de repères, est fascinante pour l'humanité parce qu'elle va donner certainement lieu à des créativités exacerbées et probablement à des manières de penser et de voir les choses beaucoup plus ouvertes qu'autrefois. Mais en même temps, des notions philosophiques de base sur la réalité, la vérité, et des choses comme ça, deviennent extrêmement poreuses et je crois qu'on en a quand même un petit peu besoin quand même à la base parce que sinon on a beaucoup de mal.
Je crois qu'il y a, et puis on va avancer, mais je crois qu'il y a effectivement ce qu'il est important de, et là c'est la philosophie du dimanche du rendez-vous tech, je pense qu'il est important à la fois d'être conscient de ces changements, de ne pas s'affoler. Parce que on le sait dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a des changements, les gens s'affolent et surtout la génération précédente considère que la génération, la jeune génération est foutue et perdue, machin. Et on sait bien que bon, voilà, on a tous été victimes et visiblement on le fait tous quand on devient un petit peu plus âgé. Mais donc en être conscient, ne pas s'affoler, mais ne pas minimiser non plus. Donc le regarder avec objectivité et sérieux, et puis essayer de voir quels sont les problèmes que ça pose et essayer d'y répondre, quoi.
Tout à fait.
Donc bon, voilà, petite digression philosophique du dimanche, comme je le disais. On va faire une petite pause avec avant les news suivantes, sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. Mais donc, petite pause pour vous parler de plusieurs choses. J'ai plein de choses à vous dire. D'abord, comme d'habitude, vous le savez, Patreon, c'est le moyen pour soutenir le Rendez-vous Tech, pour nous soutenir, pour nous permettre de d'exister, tout simplement. Si vous êtes, comme je disais en début d'émission, est-ce que vous êtes déjà demandé comment on paye tout ce qu'on fait? Alors, on vous en parle souvent, donc vous savez peut-être, mais vraiment, comment est-ce qu'on paye notre temps de travail, notre matériel? Comment est-ce que vous permettez que Patrick puisse payer son loyer à la fin du mois? Eh ben, c'est très simple, c'est que les auditeurs décident de financer l'émission. Ils vont sur patreon.com/rdvtech et vous avez le choix, et c'est un système, à mon sens, vraiment, on y a beaucoup réfléchi, et c'est, je crois, le système le plus sain qui soit. Parce que vous avez le choix, l'émission est toujours disponible, même si vous ne voulez pas payer pour. Il n'y a pas de pub, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, vous pouvez limiter le nombre de fois que vous êtes facturé par mois, enfin le nombre d'émissions pour lesquelles vous êtes facturé par mois. Enfin, vraiment, je crois que c'est pas possible d'imaginer un système plus sain. Donc,
moi, ce que j'abonde dans ton sens, ce que j'adore dans Patreon et Tipeee, que moi j'utilise la version, on va dire, un peu française, c'est effectivement, il y a une exigence de résultat. C'est pas comme un crowdfunding où tu mises sur la possibilité, sur un produit, de voir le jour éventuellement, et mais même s'il n'a pas lieu, ton argent va être pris. Là, en gros, si tu fais pas tes émissions, les gens ne sont pas prélevés.
C'est ça, exactement.
Et c'est en ça que je trouve ça presque plus sain que des systèmes à la Kickstarter et tout ça, quoi. Mmh.
Donc voilà, effectivement. Et puis, pas d'obligation de résultat. Et si un jour l'émission vous plaît plus, bah, vous pouvez vous désabonner du jour au lendemain. Vous êtes pas engagé pendant 12 mois, comme chez un je ne sais quel fournisseur d'accès Internet. Donc, bref, voilà, je tiens vraiment à remercier ceux qui soutiennent l'émission, à savoir aujourd'hui, on remercie Stéphane Décor de Claire, Philus, Tamor, Raphaël Béveno, Marcin Marzac, j'espère que je prononce bien, Stéphane Grégorisata et Christophe L. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que cette émission existe et je vous remercie de votre éthique, de votre sérieux et de votre engagement pour cette émission que vous appréciez. Certains, voilà, donnent le prix d'un demi-café, certaines donnent un peu plus, mais toutes les contributions sont appréciées et importantes. D'autres choses dont je voulais vous parler également, d'une part, l'épisode spécial Machine Learning. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, et bien sûr, on a fait cet épisode il y a quelques semaines, mais si vous l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à aller y jeter un coup d'oreille. C'est un épisode spécial, c'était le 217 qu'on a fait au début de l'été avec Nicolas Tupé-Gabé, Nico Tup, de Podcast Science, où on a expliqué vraiment les bases du fonctionnement du machine learning, pourquoi c'est important, comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc. Et vraiment, le machine learning et le deep learning sont tellement importants dans la tech aujourd'hui. C'était un sujet, c'est un sujet qu'on évoque tout le temps, mais on sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Et là, j'ai vraiment voulu essayer d'expliquer, toujours dans l'éthos du rendez-vous tech, c'est-à-dire simple pour qu'on puisse comprendre, mais jamais bêtifiant, toujours en étant informatif, et pour que les gens qui ne connaissent rien et ceux qui s'y connaissent un petit peu puissent y trouver quelque chose d'intéressant. Les retours ont été très très bons sur cet épisode.
Il est très bon. Hein. Moi, j'ai écouté que le début aussi pour l'instant, mais ouais, vraiment
d'accord,
bien.
D'accord. Non, mais en fait, ça devient très mauvais après. Donc
bon, jusqu'à 50%, c'est bon.
Ok, très bien. Non, oui, l'épisode a eu vraiment de très bons retours, donc je pense qu'il a accompli son but. Donc voilà, c'est l'un de ces épisodes spéciaux qu'on fait de temps en temps, et je pense qu'il est de qualité. Donc je vous engage à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est le documentaire qui a été produit par Corben et qui a été réalisé par Florian Belmonte, sur votre serviteur, sur moi. C'est un documentaire court, une sorte presque de court-métrage que Corben et Florian sont venus tourner en décembre dans chez moi, à Paris. Ils sont restés pendant 2 jours chez moi et ils ont, Florian surtout, a donc essayé de retranscrire un petit peu ce que je suis, ce que je fais, comment je travaille, ce que c'est que mon travail de podcasteur et d'artisan du podcast. C'est un petit peu comme ça que je me définis et c'est comme ça qu'ils ont intitulé l'émission. Et vraiment, c'est un travail qui, à mon sens, a été d'une part est hyper intimidant et m'honore beaucoup parce qu'ils ont choisi de faire ce travail sur moi. Et puis surtout, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je trouve que Florian a réussi à capter ce que j'essayais de transmettre dans mes émissions, dans ce que je suis, dans ce que je disais. Donc c'est toujours un petit peu intimidant de se mettre un peu à nu comme ça, intellectuellement, pas physiquement.
Non, Patrick est à poil dans le documentaire, allez le voir. Mettez des pouces bleus.
Donc voilà, c'est sur la chaîne YouTube de Corben. Je l'ai mis sur frenchspin.fr dans le carrousel, donc vous pouvez y accéder très facilement. Moi, j'ai été vraiment hyper content du résultat, donc un grand merci à Corben et à Florian surtout d'avoir fait ce petit truc. Et si vous êtes curieux de savoir comment je suis et ce que j'essaye de transmettre, vous pouvez aller regarder ce documentaire, c'est une quinzaine de minutes, et là encore, les retours ont été bons. Donc voilà, le spécial Machine Learning et le docu de Corben. Je vous engage à aller regarder et écouter tout ça. On continue avec d'autres news de ces deux dernières semaines. Alors là, on va passer un petit peu plus rapidement. Il semblerait que Google planifie un rapprochement de Google Play Music et de YouTube Red pour créer un seul service qui serait quand même pas con et que j'attendrais avec impatience.
Moi, j'ai pris Google Music il y a un an à cause de ça, donc j'attends toujours, quoi.
YouTube Red, c'est un truc que moi, j'aimerais vraiment avoir, un truc pour plus avoir de pubs sur YouTube. Maintenant, ils savent que je regarde énormément YouTube, donc ils me mettent genre des pubs à chaque vidéo. Donc moi, je serais vraiment prêt à payer 10 euros.
Non, mais je pense ça. Alors, tout le monde va me demander, ça arrive quand? Ça arrive quand? J'essaye de tirer des vers du nez des gens de chez YouTube parce que j'y suis assez souvent. En ce moment, ils savent rien. Ils ont aucune info. Je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose et à ce moment-là, ça sera mondial. Si ça sort pas au niveau France, c'est parce qu'ils estiment que le produit Red n'est pas complet encore.
Ça serait cohérent. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde en dépassant Bill Gates grâce à la capitalisation.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Boursière d'Amazon. Et ça a duré que quelques heures et Bill Gates est repassé devant quand Amazon a rechuté un petit peu. Mais bon, il n'empêche, c'est quand même un mouvement assez impressionnant. On vous dit depuis des mois qu'Amazon est en train de devenir une locomotive inarrêtable dans le domaine de la tech. Et bon, là, c'est l'une des manifestations de cette montée inexorable. Mais c'est toujours amusant / intéressant à constater, quoi.
Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point la bourse détestait Jeff, et d'ailleurs le déteste toujours, parce qu'il fait un truc horrible pour un patron, c'est que les bénéfices qu'il fait, il les réinvestit. Ouais. Alors ça, c'est un crime odieux aux yeux des boursicoteurs de la bourse. Et effectivement, et il continue à le faire, Jeff Bezos. Mais maintenant, ils ont compris que c'était pas mal en fait de réinvestir son argent pour la croissance, quoi.
Bon, il donne un peu de dividendes, mais pas.
Oui.
énormément.
C'est pas, non, oui, c'est pas, ouais.
On a des annonces d'usines qui seraient construites aux États-Unis, à Foxconn qui va investir dans le Wisconsin, et Donald Trump qui a leaké une annonce qui n'est pas du tout officielle et qui n'a peut-être pas fait plaisir à Apple, selon laquelle il y aurait 3 usines qui seraient prévues par Apple aux États-Unis. Alors, il n'y a pas du tout de détails, on ne sait même pas si c'est vrai, mais peut-être...
Ah, si, il a donné une info, elles seront grandes, grandes et grandes.
Ouais, c'est ça. Il a aussi dit qu'elle serait magnifique.
Belle. Ouais.
Donc, plusieurs indications. Alors, à voir si ça se concrétise. Mais donc, des usines de fabrication de produits tech aux États-Unis, donc dans des pays développés. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer à augmenter? Est-ce que c'est une réponse à la véhémence du président Trump sur ces sujets? On sait pas, mais voilà, quelques petites indications.
Je suis plus cynique. Moi, je pense que c'est surtout un deal pour pouvoir avoir une loi fiscale avantageuse.
Qui leur permettrait de ramener
pour moi, c'est même clair. Trump, il a dit, OK, vous ramenez vos bénéfices, mais vous me faites 3 usines pour que je sois réélu avec des mecs qui feront rien parce qu'ils n'ont pas les compétences pour aux États-Unis, parce que le fond du problème, il est là. C'est bien beau de construire des usines pour fabriquer des smartphones, mais les gens qui ont les compétences pour faire des smartphones, ils sont plus aux États-Unis.
Et depuis longtemps. Mais ça peut se réentraîner. C'est compliqué.
Oui, mais ça sera un peu artificiel. Je veux dire, ça va être un peu désolé du terme, mais ça va être un peu l'emploi jeune de la tech, quoi. Ça va être des fausses usines pour avoir des bénéfices. Je suis très cynique.
Ouais. Moi, je te trouve quand même hyper cynique. Je pense qu'il y a, en particulier aux États-Unis, c'est peut-être pas exactement les mêmes situations dans la vieille Europe, mais aux États-Unis, il y a quand même des territoires complètement sinistrés où il y avait des gens qui étaient justement dans ces pays de. Alors, l'un des exemples, c'est le charbon, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien. Et moi, je pense qu'il est possible, tu vois, c'est des formations qui sont pas non plus des trucs qui te prennent 4 ans à l'université.
On va leur faire emballer de l'iPhone dans du carton. Personne va vouloir y bosser, même.
Ouais, bon, bref. On verra ce que ça donne, effectivement. Moi, je trouve, bon, il y a certainement une part de vérité dans ce que tu dis, mais je trouve que c'est quand même hyper cynique la manière dont tu l'approches.
Ah, mais je suis très cynique.
C'est vrai. Justement, à propos de cynisme, Google.org, donc l'organisation caritative de Google, a annoncé qu'ils allaient investir 50 millions dans des études qui essayeraient d'analyser les changements de la nature du travail aux États-Unis et en Europe. Alors, c'est en partenariat avec d'autres organisations, mais c'est un investissement qui, on se doute bien que Google est intéressé par ce type de mouvement, et peut-être que ça peut leur redorer un petit peu leur image, mais voilà, investir dans les études sur la nature, enfin le changement de la nature même du travail, c'est quelque chose qui, à mon sens, est nécessaire, qui est toujours nécessaire, mais encore plus aujourd'hui, quoi.
Ah, je suis à fond là-dessus, moi. C'est même mon cheval de bataille, c'est qu'il faut redéfinir ce que c'est que le travail, sinon on s'en sortira pas.
Ouais. À voir. D'ailleurs, j'en profite, tiens, pour dire en passant que dans les tendances que je vois, je parlais des tendances des articles, beaucoup d'articles écrits sur les changements sur le quotidien des adolescents et des enfants. D'autres articles que je vois de plus en plus, c'est ces questions qui commencent à se poser sur le fait qu'il faille ou non casser et diviser les grosses entreprises de la tech, les fameuses GAFAM. Alors, on n'y est pas du tout encore, mais c'est pas la question qui se pose. Vous savez, c'est comme quand on demandait il y a une ou deux décennies, s'il fallait diviser Microsoft en Windows d'un côté et Office de l'autre, parce qu'ils étaient trop hégémoniques et qu'ils s'influençaient l'un l'autre. Là, on n'y est pas encore, mais le vrai problème qui se pose, c'est pas « Ah mon Dieu, Google est trop gros, ils ont toutes nos données » ou « Ah mon Dieu, Facebook est trop gros, ils ont toutes nos données ». C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a naturellement, quand il y a des changements de paradigme, des renouvellements qui se font par des sociétés innovantes qui vont venir remplacer ou rafraîchir le status quo avec les grosses sociétés qui étaient déjà là, qui vont se faire remplacer par d'autres. On l'a vu à plusieurs reprises avec IBM qui s'est fait remplacer par Microsoft, Apple et d'autres. On a vu, même s'ils sont encore là, ces renouvellements s'effectuent avec l'Internet et l'émergence d'autres concurrents comme Amazon, Facebook, etc., Google. Là, le problème, c'est que ces changements de paradigme étant l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, possiblement, les gros d'aujourd'hui sont ceux qui sont le mieux placés pour contrôler ces marchés demain. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est pas le fait qu'ils soient gros aujourd'hui, parce que l'un dans l'autre, on réussit plus ou moins à les contrôler ou à les orienter dans la bonne direction avec la pression politique et sociétale, mais il semblerait qu'ils seront les mieux positionnés pour contrôler les industries importantes demain, même avec les changements de paradigme de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Donc, c'est à voir, c'est une réflexion à faire sur 5 ans, on va dire, mais les gens commencent à considérer le problème. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment il y a quelques années encore, quoi. Mmh.
Bah, voilà. Je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée, en fait, en y réfléchissant.
À voir. Il y a des trucs. Le problème, c'est que comment tu les divises aussi. Il y a des trucs qui sont clairs.
On l'a fait avec le pétrole, on l'a fait avec le téléphone, on l'a déjà fait
avec l'industrie ferroviaire. On l'a fait, oui.
C'est tout à fait faisable. Ça reste des bonnes industries derrière. Mais comme tu dis, le vrai problème, c'est. Enfin, moi, je suis un fervent partisan de la concurrence. Et si tu la tues dans l'œuf, t'as plus de dynamisme, t'as plus d'innovation, et tout le monde s'endort, quoi.
C'est ça le problème. Et aujourd'hui, mais en même temps, il y a quand même une concurrence, parce qu'ils sont 5, on va dire, énormes.
Oui, mais la tentation de l'entente va être trop
grande. C'est sûr. Mais je crois que là, on n'est pas encore dans cette situation.
Non, mais il faut penser au futur.
Ouais, et c'est pour ça qu'il faut commencer à y réfléchir. Et il y aurait des moyens, genre tu divises, je sais pas, YouTube et Google. Enfin, le reste de YouTube et le reste de Google, par exemple. Déjà, il y a ce genre de truc. Facebook, il y a Instagram. Tu sépares Instagram de Facebook.
Tu sépares
Amazon Echo d'Amazon. Enfin, tu vois, il y a des moyens de le faire, quoi. Mais bon. Bref. C'est vraiment un tout début de réflexion, un début de tendance que je voulais évoquer, mais. Autre chose qui était surprenant, Uber a annoncé un partenariat avec AXA pour offrir une assurance contre les accidents. Alors c'est pour s'accorder avec la loi française, mais il n'empêche, si Uber commence à s'intéresser aux assurances de ses chauffeurs, c'est une petite porte ouverte peut-être vers un statut un petit peu différent pour les chauffeurs, puisque c'est le gros problème qu'il y a avec Uber, c'est que leurs chauffeurs ne sont pas des employés, mais enfin sur le papier, mais de fait, je pense que tout le monde s'accordera à dire que bon, quand même un petit peu des employés. Donc bref, ça commence à bouger un petit peu par la force des lois. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'ils sont encore en train de chercher un nouveau CEO et il semblerait que Kalanick déjà soit en train d'essayer de manœuvrer pour se dire on n'en trouve pas, peut-être que c'est moi qui dois revenir. Déjà seulement quelques semaines après son départ. Donc bon, bref.
Tu peux pas arrêter une locomotive et ce mec, je sais pas à quoi il fonctionne, mais.
Ouais. Exactement. Tesla a rendu disponible son Model 3. Alors, pas un petit peu, parce que c'est uniquement disponible pour les employés qui en ont commandé. Pour les autres, ça sera, ils en font autant que possible, aussi vite que possible. Mais ça nous permet de reparler de l'incroyable montée météorique de Tesla dans le domaine de la voiture et de l'influence qu'ils ont eue sur l'industrie de l'automobile. C'est vraiment intéressant parce que Elon Musk avait dit il y a 10 ans, on va construire une voiture électrique hyper chère et on va se servir de l'argent qu'on va générer avec ça pour construire une autre voiture électrique. Et cette autre voiture électrique sera un peu plus abordable. Et on va utiliser l'argent de cette voiture pour construire un troisième modèle. Bon, il y en a eu un autre, quelques variations entre temps, mais un troisième modèle qui, lui, sera une vraie voiture électrique abordable. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a 10 ans, quand il s'est lancé dans ce pari complètement fou, mais il a mis tout l'argent qu'il avait, il s'est ruiné. Les voitures électriques, il y a 10 ans, mais enfin, c'était un rêve, c'était inaccessible, c'était ridicule.
Il y en avait, mais elles étaient ridicules.
Non, mais voilà, c'était des pots de yaourt, quoi, les voitures électriques. Ça n'avait aucun sens. Et aujourd'hui, alors oui, le Model 3, c'est évidemment pas la voiture que tu vas acheter quand t'es au SMIC, quoi. C'est une voiture qui coûte quand même 30 000 dollars.
C'est pas la deux chevaux électrique non plus.
Voilà, on va dire ça. Mais il n'empêche, 30 000 $, on rentre dans des domaines, et oui, pour avoir plus de d'options, etc., ça coûte plus cher, bien sûr. Mais il n'empêche, le modèle 3 à 4 000 $, à 30 000 $, il existe, il est là, tu peux le commander, et c'est une vraie voiture performante, concentrée de technologie. Enfin, c'est une voiture, quoi. Et une voiture qui a une alternative complètement crédible aux autres voitures de ce prix-là. Et encore une fois, 30 000, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000. Donc, un grand coup de chapeau, un énième coup de chapeau à Elon Musk, qui a fait, non seulement qui a réussi son pari sur sa compagnie Tesla, mais qui en plus a vraiment poussé, et ça c'est hyper important, a poussé l'ensemble de l'industrie.
Le pari n'est pas gagné, justement c'est la zone de danger qui arrive là. Parce que le problème c'est pas tant ça, c'est est-ce qu'il va arriver à fournir. Et c'est le gros problème dans l'industrie automobile, c'est est-ce qu'il va arriver à honorer ses commandes. Et aujourd'hui, moi je pense, hein, c'est le moment le plus dangereux pour Tesla, il est maintenant, dans l'industrie automobile.
Moi je dirais, oui bien sûr, pour Tesla, mais à la limite peu importe. Parce que
oui, tu veux dire, bravo pour avoir pour la prouesse, quoi. Mais
bah, c'est pas que pour
Tesla
la prouesse, c'est bravo pour
le constructeur.
C'est bravo pour l'humanité, à mon sens. Ouais. Oui, Tesla. Oui. À mon avis, je pense que ça va parce que ne serait-ce qu'il y a un enthousiasme au niveau de Tesla. Il faut espérer qu'ils vont réussir à fournir, c'est sûr. Mais bon, voilà, ils sont quand même pas trop mal barrés. Mais pour l'humanité, le fait de d'avoir réussi à motiver, initier ce mouvement vers la voiture électrique, parce qu'aujourd'hui, la voiture électrique est... Alors, certains pourraient dire, non, mais tout le monde faisait des recherches dans le domaine, c'était déjà initié, machin. Oui, non, peut-être. Ouais. Moi, je pense que, quand même, il y a eu une prise de conscience, une... Enfin, le fait que la tech s'intéresse à la voiture a fait que l'industrie de la voiture, l'industrie automobile, s'est rendu compte qu'il y avait d'autres industries qui s'étaient faites bouffer par la tech et qui se sont dit « Oula, faut peut-être qu'on s'y mette aussi » et puis l'importance de la... Bon, bref.
Ouais,
mais pour l'humanité, au final, les voitures électriques, aujourd'hui, bah, c'est demain, quoi. Et c'est même aujourd'hui pour certains. Donc,
le truc, c'est qu'avant Tesla, la voiture électrique, ceux qui y pensaient, c'était les écolos. Et maintenant, les voitures électriques, ça fait envie. Pour moi, c'est ça la grande différence. Avant, on les prenait pour se donner une bonne conscience. Là, on a envie d'une voiture électrique. Mmh.
C'est un facteur important aussi. Ouais. Les box de télé. Alors, les box de télé, c'est un petit peu particulier parce que en Europe, comme on le dit souvent, et en France en particulier, on a nos box qui sont fournies par les fournisseurs d'accès Internet. Donc, les trucs genre Roku, Chromecast, Fire TV, Apple TV, tout ça, c'est pas aussi populaire. Mais il n'empêche, il y a des chiffres intéressants de e-marketeurs que j'ai vu passer. Je sais pas si t'as regardé les notes déjà, mais qu'est-ce que tu aurais pu donner le nom de la box qui était la plus populaire aux États-Unis?
Non, aux États-Unis, j'aurais peut-être pas pu la donner, mais après, je suis pas surpris, par exemple, des résultats de Chromecast.
Roku, c'est la plus populaire avec presque 40 millions d'utilisateurs mensuels. Chromecast est deuxième avec 35, quand même. Bon, ouais. C'est beaucoup moins cher, donc on peut le comprendre.
Non, c'est Yoy, le, je sais pas comment on prononce.
Non, ça c'est Year Over Year.
Ah, d'accord. Okay.
Chromecast donc avec 36 millions.
Ah oui, j'avais mal vu ta phrase.
Oui, ouais. Elle est pas super bien écrite, il faut dire. Ouais. Fire TV avec 21 millions. Qu'est-ce que j'ai dit? Chromecast avec 37 millions, Fire TV avec 36 millions. Et très loin derrière, l'Apple TV avec 21 millions d'utilisateurs mensuels. Voilà. Donc moi, ça m'a surpris qu'Apple soit si bas dans ce classement.
Non, ça m'étonne pas du tout. Ah oui. Bah d'abord, Apple, je pense que l'Apple TV, ceux qui achètent l'Apple TV, c'est ceux de l'écosystème Apple. De toute façon, une Apple TV ne devient vraiment intéressante que si t'as un écosystème Apple. Donc, ça limite déjà la vente. Et puis, il y a quand même le prix d'accès. Ça vaut combien? 10 fois le prix de... Non, j'exagère, mais...
Non, ça vaut 2-3 fois, oui, le prix de...
Au moins. De Chromecast, une Chromecast, c'est quoi? C'est 35 euros maintenant.
Quelque chose comme ça.
Une Apple TV, c'est 150, non? Dans ces eaux-là, donc...
Ils ont augmenté le prix à ce point-là? Attends.
Non, je sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé.
Chromecast.
Je vais regarder Apple TV.
Alors, 80 euros la Chromecast Ultra, ici, en Finlande. Bon, c'est un petit peu plus cher ici, mais...
Ouais, non, mais en Finlande, vous avez pas des bons prix.
Oui, non, c'est sûr. C'est 40 euros pour la Chromecast normale et Apple TV,
je suis dessus, à partir de 179 euros.
Ah oui, quand même, oui, effectivement.
La taxe Apple.
D'ailleurs, il y a une 4K, une Apple TV 4K qui devrait arriver cet automne, on imagine.
Pareil, c'est dans les informations. Oups, on les a mis dans le HomePod.
Voilà, exactement. Tiens, en parlant de l'influence des grands et en particulier d'Apple, Adobe a annoncé qu'ils allaient arrêter de mettre à jour et de distribuer Flash à la fin de 2020. Alors bon, on est quand même très très loin de la sortie de l'iPhone, mais je me souviens avec émotion de ce combat épique entre Adobe et Steve Jobs, enfin Adobe et Apple, sur est-ce que Flash est important et nécessaire ou pas sur les smartphones, et des gens qui étaient hyper déçus qu'il soit pas sur le...
Qui disaient l'iPhone ne marchera jamais s'il a pas Flash.
Ouais. Et c'était au-delà de la question de est-ce que ça c'était un bon téléphone ou pas, vraiment une analyse à cette époque, et certains qui nous écoutent aujourd'hui 10 ans plus tard se rendent peut-être pas compte parce qu'ils sont un peu trop jeunes de l'importance de Flash à l'époque, mais c'était vraiment un argument crédible de se dire que le téléphone marcherait pas parce qu'il y a pas Flash. Flash était omniprésent.
Apple était foutu. C'est comme l'abandon de la prise jack, quoi.
C'est un peu ça, ouais. C'était le drame. Mais on peut aussi admirer la clairvoyance d'Adobe dans ce domaine, qui après s'être battu, on va dire, pendant 2-3 ans, a commencé à comprendre que Flash allait péricliter et s'est complètement transformé et s'est reconcentré sur ces domaines de où ils étaient plus forts et ont réussi aujourd'hui à être un acteur qui compte dans leur domaine,
Bon, ils ont revu
pas gagné, quoi, parce que Flash
modèle,
était leur business à je sais pas combien de pourcents, mais une grosse partie, quoi.
Oui, ils ont revu complètement leur business model. Bon, je dois avouer que il fait un peu chier parce que le système d'abonnement, c'est très très cher maintenant. Mais
Si c'est juste pour Photoshop, ça va. Moi, je paye 10 euros par mois tranquillement.
Oui, mais on a rarement besoin juste de photos. Disons que ça devient cher quand tu vas au-delà, ouais.
Oui, c'est ça, ouais. Quand t'es un petit indépendant, quand t'es une grosse boîte, tu t'en fous.
Ouais, mais pour les indépendants, c'est très dur, hein. C'est très très dur. Et la version piratée, ça se fait plus. Enfin, il y a tellement de problèmes de sécurité que tu peux plus trop te permettre, quoi.
Ah oui, moi je sais pas, j'ai jamais rien piraté, donc.
C'est bien.
Je sais pas de quoi tu parles. Aucune idée.
J'en ai entendu parler. Hein.
Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Tiens, un petit truc qui se passe dans le monde de Bitcoin. Alors, je vous avoue que c'est un truc hyper compliqué, donc j'ai pas bien suivi exactement tous les détails techniques. Mais en gros, Bitcoin s'est séparé en deux entités différentes. Il y a toujours Bitcoin et il y a de l'autre côté Bitcoin Cash, et ces deux crypto-monnaies qui fonctionnent maintenant de manière un petit peu différente. Il y avait un gros débat et un gros désaccord sur la manière dont fonctionnait dont fonctionnait Bitcoin, et donc une partie des ingénieurs, une partie de la base a dit bon, fuck you, nous on va aller faire les choses d'une manière différente parce que c'est pas tenable sur le long terme. Mais ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, alors venez me dire dans les commentaires si c'est pas le cas, hein, je me trompe peut-être, mais ils ont copié le ledger, la blockchain de Bitcoin, et il y a d'une part maintenant les gens qui ont les Bitcoins, et tous ceux qui avaient des Bitcoins ont aussi maintenant des Bitcoin Cash. Alors il faut faire une petite opération technique pour créer son portefeuille Bitcoin Cash en plus du portefeuille du Bitcoin. Les Bitcoins existent toujours et valent toujours ce qu'ils valent, et Bitcoin Cash, eh ben, ils ont simplement créé de l'argent en plus. Alors, la valeur de Bitcoin Cash est pas déterminée. Aujourd'hui, visiblement, ça vaut pas mal. Ils étaient, il y a quelques jours, à la troisième crypto-monnaie la plus chère après Bitcoin. Il aurait tout à fait été possible que ça vaille rien du tout. Donc, mais c'est fascinant de voir qu'ils ont... Alors, on peut se dire, oui, tous les gouvernements font ça, on peut créer de l'argent de nulle part. C'est vrai. Et ça vaut uniquement la valeur que donne la confiance qu'on a en cette monnaie. C'est le cas pour Bitcoin Cash. Mais là, ils ont simplement divisé le truc et créé tout le monde, tous ceux qui avaient des Bitcoins, c'était pas mon cas, ont aussi des Bitcoin Cash. Enfin, ça me retourne un petit peu la tête, cette histoire, quoi. Mais, je suis sûr qu'il y a des experts qui viendront nous dire que je me trompe, mais dans les commentaires. Mais...
Moi, je suis un peu comme toi. Je comprends, puis j'essaie de voir les aspects économiques, mais quand je vois là, parce que certains disaient, ah, mais ça va être catastrophique cette histoire. Puis là, le Bitcoin, il a dépassé son record. Il est à $3,000 le Bitcoin ce matin. Je trouve ça fascinant, mais je comprends pas tout. Ouais, c'est fascinant. Plus, ouais.
C'est voilà. Surtout cet aspect de copier la.
De créer, c'est de la création. Bah, ça s'est déjà fait dans le monde économique, hein.
Bien
c'est
sûr,
de la création de richesse. Mais généralement, ça se passe mal. Généralement, quand on fait ça, mais bon, écoute.
Bah là, en fait, le seul danger, c'est que Bitcoin Cash ne valent rien. C'était le seul danger pour eux, tu vois, et pour tous ceux qui possédaient des bitcoins. Donc, si Bitcoin Cash ne vaut rien, bon bah, t'as toujours tes bitcoins. Et la valeur de Bitcoin Cash influence pas forcément la valeur de Bitcoin.
Disons que oui, peut-être. Ils ont forqué quoi.
C'est ça. Et enfin bref, donc super intéressant. Le vous savez ce fameux redressement fiscal de Google qu'avait décidé le gouvernement, et ben il a été annulé par la justice française. Alors c'est le tribunal administratif de Paris qui a décidé en fait le problème. C'est le fisc lui réclamait un peu plus d'un milliard de dollars parce que il y avait des emplois qui étaient de fait facturés en Irlande, qui en fait étaient effectués en France. Enfin, des travaux, du travail de Google qui était facturé en Irlande, mais dont la France estimait, le fisc français estimait qu'ils étaient effectués en France. Et ce qu'a estimé le tribunal de Paris, c'est que en fait, il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait pas d'établissement stable pour ces activités en France. Donc, il n'y a pas vraiment de preuve qu'il y a cette activité en France. Et alors, moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que si Google, effectivement, dissimule du travail en France, évidemment, il faut un redressement et il faut qu'ils payent leurs taxes. Mais si, effectivement, c'est la nature du travail sur Internet qui fait qu'ils peuvent faire ça pour la France depuis l'Irlande, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà, je sais pas... qu'est-ce qui va se sortir de cette histoire au final? Je pense qu'il est important qu'on analyse les choses de manière objective et pas simplement qu'on se dise soit Google est un grand méchant, soit le gouvernement est un grand méchant qui cherche des taxes partout. Mais bon, voilà.
Il
donc
faut,
juste pour signaler
faut,
cette,
faut effectivement dépassionner le débat parce que d'abord, il faut rappeler quand même que il y a des sociétés françaises qui font ça dans d'autres pays aussi, c'est-à-dire garder l'activité, la technologie en France et pour pas payer les impôts dans certains pays. Donc, ce que je veux dire, c'est que Google n'a rien inventé sur ce système-là. Moi, la lecture du dossier, ça se tient, hein, ce qu'a décidé le tribunal de Paris. C'est qu'ils estiment qu'effectivement, la plus grande valeur vient des technologies, et les technologies ne sont pas en France. Les serveurs ne sont pas en France. Donc, que Google paye quand même des... Parce que Google en paye des impôts, mais bien uniquement sur ses équipes marketing, c'est-à-dire les vendeurs Google en France, ils payent les impôts là-dessus, mais pas sur la technologie qui permet de faire fonctionner le système.
On parle de gouvernement, tiens, deux décisions qui sont venues assez proches l'une de l'autre, en Chine et en Russie. On sait que dans certains pays où l'oppression et la censure sont fortes, les utilisateurs, la population utilise des VPN pour avoir les informations ailleurs qui viennent d'autres pays. Alors, tu te connectes à ton VPN quand tu es en Russie. Tu as une IP, tu te connectes à la France, l'Angleterre, les États-Unis, quoi que ce soit, et tu vas voir les news auxquelles tu n'aurais pas accès si tu étais en Russie parce qu'elles sont bloquées dans ce pays. Et c'est la même chose en Chine. Eh ben, le gouvernement russe et le gouvernement chinois ont trouvé une solution très simple. Et ils vont devoir, ils ont interdit l'utilisation de VPN contrôlés au niveau des FAI et des App Store, etc. Ils ont plus le droit de fournir des VPN ou ils doivent bloquer les VPN à ce niveau. Donc voilà, solution radicale, censure, puissance 10. Ou c'est même pas censure puissance 10, c'est censure et on bouche les trous qui permettent de contourner la censure. Donc, je vous laisse avec ces considérations politiques. Et entre parenthèses, bien sûr, Apple et les autres ont retiré les applications de VPN de leur store en Chine parce que c'est la loi là-bas et évidemment, ils n'ont pas le choix. Mais voilà, à signaler aussi qu'Apple a besoin du marché chinois pour sa croissance et on se doute bien qu'ils ne seront pas les derniers à se conformer aux lois du gouvernement chinois. Quoi d'autre? Tiens, il y a une application intéressante qui commence à avoir le vent en poupe. C'est une application saoudienne, figure-toi, qui a été créée en Arabie Saoudite, qui s'appelle Saraha. Attendez, j'ai du bruit là. Saraha, qui veut dire... qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire candeur ou ouverture. Je suis en train de voir un article de Fortune. Qui est une application où on peut envoyer un message à quelqu'un de manière 100% totalement anonyme. Et là, vous vous dites, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est terrible cette idée. Et là où c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle ils ont développé ça, c'était pour avoir du feedback dans des entreprises. C'est-à-dire que au départ, l'idée était d'avoir un moyen pour les gens qui étaient dans une entreprise d'envoyer un message à leur manager ou à d'autres personnes dans l'entreprise pour avoir un feedback entièrement honnête, de manière à ce que t'aies pas besoin d'avoir peur que ils vont savoir de qui ça vient, donc je peux pas dire ce que je pense, etc. Et elle s'est développée au-delà de ça et elle est hyper populaire. Donc voilà, c'est une application qui sert aussi pour les amis, genre pour avoir du feedback sur... c'est généralement visiblement utile en petit, relativement petit comité, quoi. C'est pas que tu vas envoyer du feedback à n'importe qui, évidemment, là ça devient très trollesque. Mais dans ce contexte, j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais, après, beaucoup de dérapages possibles.
Évidemment, je crois que c'est le genre de truc où, au-delà de petits groupes, ça devient très vite dramatique. Ouais. Quoi d'autre? Oui, on évoquait ces histoires de du monde changeant. Il y a Facebook qui est en train de tester différentes techniques pour essayer de contrecarrer les fake news qui se diffusent partout. D'une part, il y a l'idée de d'afficher des articles connexes aux sujets populaires, y compris pour les sujets fake news qui se diffusent beaucoup. Genre, tu vas à côté afficher un article qui va expliquer le sujet en question. Donc, essayer de d'amener avec la fake news la not fake news, la vraie news à côté. Et puis, ils sont en train de tester la possibilité d'afficher des updates de politiciens locaux dans les flux de personnes qui ne suivent, même s'ils ne suivent pas ce politicien sur Facebook, au plus une fois par semaine, donc c'est quand même assez limité, mais c'est un moyen de d'impliquer les gens dans la vie politique, même s'ils veulent pas. Alors évidemment, après, tu veux pas, mais tu l'as quand même, c'est un peu frustrant. Je sais pas si c'est la bonne solution, et c'est encore qu'un test, mais ils sont en train... Moi, je trouve que c'est pas mal de voir qu'ils sont en train de tester un petit peu partout, plein de manières, eux et Google et les autres, de combattre tous ces problèmes que pose le nouveau monde virtuel, y compris la désinformation, quoi.
Et si tu t'intéresses pas à la politique, t'inquiète pas, elle s'intéressera à toi.
Je voulais en conclusion lire ou plutôt proposer une petite discussion ici et puis aussi dans les commentaires de l'émission donc un commentaire de notre ami Loconox, Jérémy, qui est un auditeur de longue date, qui était déjà d'ailleurs depuis Azeroth.fr, et qui est un libriste convaincu, donc un adepte des logiciels libres, qui a réagi à l'épisode précédent, donc que vous aviez fait, toi Jérôme, avec Guy et Léo, et qui nous dit, s'il vous plaît, un peu de cohérence entre le discours et les actes. Je dis qu'il a réagi à votre épisode, mais c'était un petit peu plus, de manière un petit peu plus générale, et je pense que ça s'appliquera aussi à cet épisode. Alors, il nous dit donc, s'il vous plaît, un peu de cohérence entre le discours et les actes. Je suis toujours assez surpris de voir que vous vous émouviez de l'importance que prennent les GAFA dans le monde de la tech. Il a oublié Microsoft, donc les GAFAM, mais qu'en même temps, vous ne sembliez pas tellement chercher à vous en détacher. Si vous souhaitiez réellement que ces plateformes aient moins d'importance, qu'Internet soit un peu moins centralisé et se développe une vraie saine pluralité, il est possible d'agir à notre niveau, et c'est assez simple. Il suffit de faire quelques efforts pour se passer de ces plateformes. Je ne parle pas de changement brutal, mais d'agir petit à petit pour s'en passer. Aujourd'hui, je change mon moteur de recherche pour utiliser Quant. Rien ne m'empêche de continuer à utiliser Gmail ou de parfois faire des recherches avec Google lorsque je ne trouve pas un résultat probant. Demain, je me passe de Gmail, etc. Chacun a son rythme. Alors, C'est un sujet qui revient souvent chez les gens qui sont partisans du logiciel libre ou même tout simplement d'un petit peu plus de pluralité, comme il le dit, dans le monde de la tech. Et je lui ai répondu, et il m'a répondu en retour, donc avec une longue réponse qui expliquait ses idées. Mais moi, je trouve que c'est une idée qui est évidemment intéressante et surtout que, sur le papier, je trouve qu'il a 100% raison et j'aimerais agir comme il le dit. Le problème, c'est que pour moi, il y a toujours un tas de problèmes avec ces alternatives, enfin, avec l'idée dans la pratique. Et j'en ai soulevé deux dans ma réponse, auquel lui-même a répondu. Donc, encore une fois, je vous encourage à aller voir sur les commentaires de l'émission 218 ou à venir commenter vous-même sur ce sujet dans l'épisode 219. Mais il y a deux problèmes principaux pour moi. D'une part, il y a toujours une plus grande qualité significative dans les services qui sont proposés par des sociétés commerciales. Et là, je suis sûr qu'il y a des libristes qui vont dont la tête va exploser de rage et de fureur. Mais c'est un problème qu'on connaît depuis que l'informatique existe, en fait. Je me souviens très bien dans les années 90, les gens qui, à la fin des années 90 et même 2000, les gens qui vantaient les avantages de Linux par rapport à Windows qui était omniprésent, les gens qui vantaient OpenOffice ou même LibreOffice ensuite par rapport à Office. Et j'ai testé tous
avec
ces trucs.
Toujours, je t'interromps, avec toujours un argument, et je me moque pas, mais qui était souvent le même, je l'ai installé chez ma mère, elle est très contente.
C'est vrai qu'on a souvent cet argument, mais moi je les ai testés, hein, j'ai tout testé, j'ai testé les Linux, les distributions, les OpenOffice, tous ces trucs je les ai testés, et à chaque fois, alors peut-être que pour vous c'est et les GIMP pour remplacer Photoshop, etc., que je paye légalement, etc. Mais je suis désolé, à chaque fois, pour moi en tout cas, le produit est inférieur. Et aujourd'hui, on a les mêmes problèmes. Quant, je l'ai testé pendant des mois, je suis pas aussi satisfait du service. Et puis il y a un facteur de praticité. On parle par exemple de Mastodon pour remplacer Twitter. Bah, sur Mastodon, il y a plus personne déjà. Toutes ces alternatives ne sont pas viables pour les utiliser de la même manière que celles qu'on a aujourd'hui. Et l'autre aspect, alors encore une fois, c'est mon analyse, hein, mais l'autre aspect, c'est que tous ces problèmes, certes, sont réels, la concentration des informations, etc., mais il y a, à mon sens, une pression gouvernementale et sociétale qui sont aujourd'hui suffisantes pour nous éviter le pire. C'est-à-dire que je trouve que tous ces acteurs de l'informatique sont relativement bons acteurs de la société. Relativement, bien sûr, ils poussent un peu le bouchon. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont à gauche du spectre politique qui vont dire « Ah, mais tu te rends pas compte, ils font ceci, destruction d'emplois, abus fiscaux, etc. » C'est des sujets dont on pourrait discuter, mais à mon sens, ils sont quand même, il y a différents types de pressions qui font que ça reste gérable. Il faut des amendes, il faut des contrôles judiciaires, il faut tout ça, mais on n'est pas dans une situation, c'est l'autre exemple que j'ai pris, on n'est pas dans une situation comme le réchauffement climatique, par exemple, où là, je pense qu'il faut vraiment, il y a urgence, et il faut prendre le pas sur notre confort. Moi, vous verriez le nombre de poubelles que j'ai ici en Finlande, vous auriez une attaque cardiaque si vous pensez que vous recyclez. Ici, on fait vraiment des efforts. On fait des efforts, enfin, on essaye à mon niveau, moi j'essaye d'acheter local, j'essaye de soutenir l'industrie locale, de prendre de la bouffe de saison pour éviter... Enfin bref, sur ce genre de trucs, oui, là on est à un niveau de danger qui est plus qu'urgent. Sur ces autres catégories, sur les GAFAM, oui, il y a des problèmes et il est bon d'y réfléchir, mais pour moi en tout cas... J'ai pas suffisamment de motivation où je me dis le ciel est en train de nous tomber sur la tête pour me pousser à l'époque utiliser Linux plutôt que Windows, à utiliser aujourd'hui je sais pas moi Quant plutôt que Google, même si je l'ai fait, je l'ai testé. Enfin voilà, pour moi c'est ces deux facteurs qui jouent ensemble pour faire que personnellement je sais que les libristes disent « Ah, mais un peu de cohérence entre les discours et les actes », mais je crois qu'ils substituent leur discours au nôtre. Moi, je suis pas en train de dire que le ciel est en train de nous tomber sur la tête, et je crois que beaucoup de libristes disent « Ah mon Dieu, l'omniprésence de Google, Apple, enfin des GAFAM, c'est la fin du monde ». Oh, j'exagère, mais pour eux, c'est un petit peu la fin du monde. C'est la fin d'Internet, c'est la centralisation, c'est la fin de l'esprit d'Internet. Moi, je vais pas aussi loin. Et c'est pour ça que ma réaction est pas aussi violente, entre guillemets. C'est-à-dire, je jette tous ces trucs qui, pour moi, me rendent plein de services pour me concentrer sur me concentrer sur des trucs qui sont plus, entre guillemets, éthiques, selon les dires des libristes. Mais
Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on utilise... On oublie une composante vraiment importante de pourquoi on utilise quelque chose et pourquoi on n'utilise pas autre chose. Et quelque part, ce qui me gêne dans le discours des libristes parfois, c'est « Ah, tu n'utilises pas ça ? Moi, on m'a dit, mais pas sur Linux. Oui, il y a un logiciel de montage vidéo, tu peux très bien le faire, etc. » Je leur dis « Ouais, mais il est moche, il marche pas très bien. »« Ah non, mais tu fais pas d'efforts. » Quelque part, la responsabilité est toujours du côté de l'utilisateur qui n'utilise pas du libre de droit parce que c'est un flemmard et un non-militant. Le rôle numéro un d'un producteur, de quelqu'un qui produit un logiciel ou d'un groupe qui produit le logiciel, c'est de donner envie de l'utiliser. Et finalement, je fais le raccourci un peu audacieux avec des discours de vegan ou de végétarien, c'est que par la culpabilisation, tu vas pas pousser les gens à utiliser quelque chose. Par contre, moi, pour avoir mangé des plats vegan qui étaient succulents, ça me donne envie, tu vois, de m'intéresser à ça. Et aujourd'hui, dans le domaine du libre, certains logiciels m'ont donné envie vraiment de continuer dessus, mais il y en a peu. La plupart, comme tu dis... pour moi, offre une expérience inférieure. Et c'est comme le piratage, tant que l'expérience n'est pas supérieure, je vais pas payer. Là, c'est un peu la même chose. Tant que l'expérience n'est pas supérieure, bah, je passerai pas au libre, quoi.
C'est marrant cet argument auquel j'avais jamais pensé, mais effectivement, l'idée que ce parallèle avec le piratage, parce que les libristes vont être, je pense, les premiers à te dire que pour le problème du piratage est le même. Les ayants droit qui ne veulent pas voir que l'accès à leur production est le problème principal du piratage. Ouais. Voilà, c'est
ah, mais on c'est est un peu provoque là-dessus. Mais j'inverse le problème.
Ouais, ouais, non, mais ouais. Je suis assez d'accord. Et tout ça ne dit pas que le libre n'a pas de bon. Au contraire, je veux dire, il y a eu Linux, on l'a évoqué, Linux a conquis le monde entier. C'est le système d'exploitation principal dans le monde entier. Je veux dire, Android, c'est un dérivé de Linux. Tous les serveurs du monde tournent sur Linux. Enfin, Linux a complètement gagné. C'est juste que on l'utilise pas sur nos ordinateurs de bureau. Mais voilà, il y a ça. Il y a l'idée dont certains se moquaient de Wikipédia qui fonctionne hyper bien avec une ouverture incroyable. Je veux dire... il y a des domaines dans lesquels ça marche très bien. Et c'est ces domaines qui sont enthousiasmants. Mais ça ne veut pas dire que ça marche partout. Et peut-être que c'est dû au fait que les libristes sont trop souvent des ingénieurs qui ne se concentrent pas assez sur l'interface. Ou, je veux dire, il y a peut-être ce genre de problème. Mais le fait est que la réalité est ce qu'elle est. Et comme tu le dis, on peut culpabiliser les gens du jour au lendemain. Enfin, tous les jours de notre vie...
Ouais, parce que on peut me prouver par tout plein de lignes de code que GIMP est aussi puissant que Photoshop, ok, mais il est beaucoup moins agréable à utiliser.
Non, et puis surtout, c'est pas vrai. LibreOffice a toujours eu deux versions de retard sur Office. GIMP a toujours eu alors des fonctionnalités qui n'étaient pas. Alors peut-être que tous ces outils font que les gens qui développent les outils non libres se bougent les fesses pour continuer à rester meilleurs. Oui. Ça, c'est tout à fait possible, mais bref, quoi qu'il en soit, bon, nous, c'est notre manière de voir les choses. Je serais très curieux et intéressé d'avoir l'avis des libristes, surtout par rapport à nos arguments dont on a parlé maintenant, quoi. Ne venez pas, si c'est juste pour nous redire, ah oui, mais non, le ciel nous tombe sur la tête, donc il faut utiliser Quant plutôt que Google, ou je sais pas, ou il faut utiliser LibreOffice plutôt qu'Office. Oui, on nous l'a déjà dit, et je pense que voilà, mais par rapport à ce qu'on dit, si vous avez d'autres réflexions, d'autres manières de voir les choses, nous expliquer pourquoi, etc., ça serait intéressant. Et sur ces considérations, je pense qu'on va arriver à la conclusion de l'épisode. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir pris quelques dizaines de minutes, une petite heure et demie pour passer du temps avec moi.
C'est toujours un plaisir.
Dans la forêt, dans l'été, dans le soleil. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet?
Eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV, sur YouTube, donc également sur une deuxième chaîne qu'on vient de lancer qui s'appelle Nowtech Live, avec des lives qu'on fait tous les matins de 8h à 9h sur l'actu tech. Et je me permets de faire une petite publicité parce que ça intéressera peut-être certains. J'ai sorti 3 vidéos sur iOS 11 et l'iPad Pro, puisque certains se posent peut-être la question avant la rentrée, est-ce qu'ils vont s'acheter un nouveau portable ou un iPad Pro ou même une Surface. Et avec 3 vidéos sur des approches un petit peu différentes du problème, je peux peut-être vous aider dans vos décisions d'achat.
J'ai beaucoup aimé celle sur le choix entre les différentes tailles en fait.
Il y en a une qui sort, tu l'as pas encore vu, mais qui s'appelle « Mon iPad Pro est mieux que ton PC ». Je pense que ça va faire parler de...
Très bien, le clickbait, j'adore.
Un peu.
Bon, très bien. Oui, moi j'aime bien mon iPad Pro. J'avoue que depuis quelques mois que je l'ai, je commence à l'utiliser un petit peu comme j'utilisais mon ancien iPad qui était pas pro. Et du coup, je me pose un petit peu des questions. Mais
moi, c'est l'inverse. C'est une révolution pour moi.
J'ai vu que t'avais gardé ton 10.5 pouces, donc.
Oui, je garde celui-là et surtout mon MacBook Air qui me servait pour faire certaines tâches bureautiques que j'arrivais mal à faire sur l'iPad. Depuis iOS 11, je n'ai absolument plus besoin de mon MacBook Air. Quoi.
Allez voir la vidéo mon iPad est mieux que ton PC justement pour savoir pourquoi. Sur la chaîne Nowtech TV. Et pour ma part, je vais rappeler encore une fois quelques petits sujets dont j'ai parlé dans l'émission. D'abord, le spécial machine learning, encore une fois, c'est le 217. Je vous encourage à aller l'écouter et peut-être même à dire à vos amis d'écouter le Rendez-vous Tech pour cet épisode-là et le Rendez-vous Tech en général, parce que c'est une bonne introduction peut-être au format. N'oubliez pas non plus le documentaire de Corben qui est accessible depuis... le site frenchspin.fr, vous pouvez aller sur frenchspin et directement vous aurez le lien vers cet article dans le carrousel. Et puis quoi d'autre? Patreon.com/rdvtech. Si justement vous êtes un vrai et que vous voulez vous engager, en même temps un engagement relativement modeste, hein, quelques euros par mois et avec une limite, et comme je le disais, vous pouvez vous désengager quand vous voulez, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, ça prend vraiment 2 minutes à faire et on a le lien dans les notes de l'émission, donc vous pouvez même sur votre téléphone portable, je suis sûr, le faire directement en cliquant sur le lien depuis votre application de lecture de podcast. Vous pourriez déjà être en train de le faire si vous vouliez. Et puis sinon, vous pouvez aller sur iTunes aussi ou sur votre catalogue de podcast et laisser un commentaire comme l'ont fait Rico27FR, Ulysse52 ou même GifJ avec... il y en a d'autres, hein, ils ont mis 5 étoiles. Je vais lire au hasard un commentaire enrichissant et agréable. Merci pour ce podcast de qualité, un podcast de choix. 5 ans que je l'écoute sans rater un seul épisode, des intervenants passionnés et un podcasteur chevronné qui nous hameçonne sur les différents aspects de la tech. Respect et remerciements. Remerciements et respect à vous tous qui nous écoutez et qui nous appréciez. Et un remerciement particulier à ceux qui sont contributeurs sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ah zut, merde, j'ai oublié d'en parler. On va faire une réunion IRL en septembre, une petite réunion podcast Rendez-vous Tech, French Spin, etc. Comme d'habitude au Corcoran en septembre, sans doute, quelle date on avait dit, Jérôme?
16, j'ai déjà oublié, 16,
le 16.
Je crois, septembre.
Sans doute le 16. Alors, c'est pas 100% sûr encore, mais si vous voulez venir, on la fait chaque année, on essaye de la faire chaque année. Si vous voulez venir, commencez à penser au week-end du 16 au Sacré-Cœur à Paris, au Corcoran, ça sera a priori à 16h comme l'année dernière.
Un goûter Guinness.
Exactement, voilà, on se verra donc en septembre, ça sera cool. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.